Des femmes.
Des hommes.
Des droits.
Une chronique de la Ligue des droits de l'homme de l'Ain. Bonjour amis auditeurs, bienvenue pour cette nouvelle chronique. Aujourd'hui, je reçois Maëva et Sarah, jeunes femmes engagées, qui étaient à Sainte-Soline le jour de la manifestation concernant les méga-bassines. Bonjour à vous. Eh bien, on va d'abord peut-être se présenter. Tiens, je vais commencer par Maëva. Maëva, bonjour.
Bonjour. Alors, je m'appelle Maëva et donc je fais du documentaire animalier. Donc, je viens de finir mes études et donc je commence à me lancer dans le documentaire animalier. Et j'aimerais faire des documentaires le plus engagés possible pour le respect de la faune et de l'environnement.
Très bien. Et vous, Sarah ?
Bonjour, donc moi c'est Sarah, je suis ingénieure agronome par mes études et aujourd'hui je travaille pour accompagner des éleveurs et éleveuses vers une transition agroécologique, donc pour qu'ils puissent avoir un revenu décent, qu'ils puissent se libérer de la charge de travail et surtout pour préserver les écosystèmes, surtout face au changement climatique.
Donc en tous les cas, un même enjeu vous anime toutes les deux. Et le 25 mars, vous étiez toutes les deux à Sainte-Soline, une région que vous connaissez, Maëva.
Oui, donc je suis d'originaire du Poitou, donc je connais bien toute cette région, notamment à côté. Enfin, j'étais à côté du Marais Poitevin, et donc ça fait 3 ans que j'entends parler des bassines. Donc, à l'époque, c'était des bassines, et là, ça commençait à être les créations des méga bassines. Au départ, je ne comprenais pas trop pourquoi, parce que j'entendais par les médias qu'on nous disait que c'était rempli par de l'eau de pluie. Et effectivement, dans le Poitou, l'hiver est très pluvieux. Donc c'était je ne comprenais pas. Et puis après, quand même, des gens étaient en lutte contre ce projet. Donc je me suis intéressée à ça, je me suis penchée à comprendre pourquoi il y avait autant de discorde. Et c'est là où j'ai compris l'aberration, qu'en fait, non, c'était pas du tout rempli par de l'eau de pluie, mais rempli par les nappes pompées dans les nappes phréatiques. Et donc, effectivement, il pleut tout l'hiver dans le Marais Poitevin, mais l'été, il y a plus d'eau, déjà parce qu'il y a le réchauffement climatique. Et en plus, avec l'arrivée des bassines et des méga-bassines, ça n'arrange pas du tout, parce que toute la ressource en eau qui sont dans les nappes phréatiques sont puisées pour bénéficier à quelques agriculteurs.
Donc, vous étiez donc très perplexe face à cette solution des méga-bassines. Qu'est-ce qui vous a amené, vous, Sarah, à vous intéresser donc au problème des méga-bassines ?
Je pense qu'il y a deux choses qui m'ont animée face aux méga-bassines. Tout d'abord, le projet en tant que tel. Parce qu'en fait, la construction de méga-bassines a juste pour objectif de contourner la législation qui empêche de pomper dans les nappes phréatiques l'été pour irriguer. Donc ils se sont dit, super, on va pomper l'hiver, la stocker en hiver pour pouvoir irriguer en été. Ce qui fait qu'il y a des milliers de mètres cubes d'eau qui sont pompés dans les nappes phréatiques en hiver pour être mis à la surface. Ce qui a des problèmes, il y a une perte énorme par évaporation. C'est du stockage qui ne se retrouve pas dans le Marais Poitevin, donc il y a des conséquences sur les écosystèmes. Et en fait, c'est aussi des projets de 16 hectares. Enfin, c'est juste énorme comme projet. Mais au-delà du projet en tant que tel, pour moi, le problème, c'est que en fait, c'est pour permettre à certains agriculteurs de continuer à produire de la même façon qu'auparavant, pour produire du maïs, pour l'élevage ou pour exporter. Et ce n'est pas un système agricole qui est viable, ce n'est pas un système agricole qui est résilient, c'est un système agricole qui va droit dans le mur. Et construire des méga-bassines, c'est s'accorder un sursis de 5, 10, 15 ans, mais ça ne va rien résoudre au problème fondamentale qu'est le changement climatique, et que la remise en question doit être beaucoup plus grande que juste construire des méga-bassines pour pouvoir continuer à faire pareil.
Donc là, c'est une personne qui est ingénieure agro, donc qui s'exprime, et donc vous avez étudié le problème et vous voyez que la solution n'est plus dans ce qui existe déjà.
Non, et justement, il y a un problème qui est face à nous, qui est le dérèglement climatique, et il n'y a pas de solution en tant que telle. Mais il y a plein de méthodes, de moyens d'adaptation face à cette problématique qui remet profondément en cause le système agro-industriel actuel. Et donc les méga-bassines n'apportent absolument rien.
Est-ce que vous vous sentez nombreuse parmi tous les jeunes donc, à vous intéresser donc, à l'écologie, à l'agroécologie ? Est-ce que vous vous sentez nombreuses et nombreux ?
Alors on peut dire qu'à Bourg, on a un petit groupe qui essaye de se mobiliser. Enfin, on était une dizaine à être partis dans le Poitou pour ce week-end-là. Et après, au sein de notre génération, ça commence à bouger, mais il y a encore plein de gens qui, par l'attraction que peuvent exercer certains métiers ou le système actuel, ne se posent pas du tout de questions et continuent dans la même
voie. Comment vous l'expliquez ? Vous l'expliquez ?
Bah, moi, je peux l'expliquer aussi. Enfin, personnellement, en tout cas via mes études, je peux m'engager par mon travail, mais j'ai plein de personnes autour de moi qui ont fait les mêmes études et qui sont juste attirées par la reconnaissance, par le salaire qui peut apporter une voie plus classique.
Donc, changer de paradigme, tel est votre combat à toutes les deux. Vous embarquez en voiture donc la veille de la manifestation. Comment ça se passe ?
Oui, donc on est parti donc le vendredi, donc la veille, on avait la voiture remplie pour faire les 6 heures de route qui nous attendaient. On est arrivé en début d'après-midi et donc là, il y avait un grand camping qui avait été mis en place. Et là, on nous a dit, bon, ben, on est en autogestion. Donc, toute la gestion des toilettes, de l'espace, du camping, on devait s'autogérer. Donc, c'était à la fois très intéressant de voir comment ça fonctionnait bien, en fait, alors qu'on était, beaucoup, on était entre 3000 et 5000 personnes, donc ça faisait beaucoup. En plus, le soir s'est mis à pleuvoir, donc la nuit a été très, très pluvieuse. Donc en campant dans des champs remplis de boue, le réveil n'a pas été facile, mais ça faisait partie de l'enjeu aussi. Voilà, on était là et on était là jusqu'au bout pour le vivre jusqu'au bout.
Ça crée des buts d'expérience collective. Et alors, quel était votre but à toutes deux et aux autres qui vous accompagnaient? Qu'est-ce que vous pensiez retirer de cette expérience? Qu'est-ce que vous pensiez faire, réaliser là-bas?
Donc, notre but, comme on l'a déjà dit, c'était donc de manifester contre le projet de méga-bassine et avec pour objectif d'aller marcher jusqu'à la bassine et d'essayer de rentrer dans cette... Dans la méga bassine qui était vide, donc qui n'avait pas de structure, ni de bâche, ni d'eau, qui était vraiment un trou dans le sol, pour pouvoir dire qu'on est là et qu'on ne laissera pas ce projet faire parce qu'on est contre ce projet.
Donc vous êtes arrivé à peu, vous êtes senties nombreuses et nombreux là-bas quand vous étiez présente sur le lieu?
Oui, il y avait beaucoup de monde et ça, tout le samedi, ça commençait à arriver parce qu'il y avait des gens qui étaient là depuis la veille, qui ont dormi dans le camping, mais il y a aussi plein de gens qui sont arrivés pour la journée. Donc c'est vrai que on était vraiment dans la campagne, perdu au milieu de nulle part, où d'habitude il n'y a personne, et là il y avait vraiment beaucoup de monde.
Donc le but, occuper le terrain et opérer une neutralisation de la méga-bassine?
C'était le but opérationnel de cette manifestation. Le but était vraiment d'entrer dans la bassine, comme Maëva l'a dit. Et je pense que le but aussi était de faire entendre notre voix et de dire qu'on critiquait le système derrière ces méga-bassines et montrer qu'un autre mode d'organisation, par exemple un autogestion, un autre modèle peut être possible.
Et alors, comment ça s'est passé sur place? Vous avez eu un choc face à la réaction qu'a entraîné votre action? Comment? Expliquez-moi.
On peut peut-être raconter comment s'est déroulée la manifestation. Donc nous, on est partis à pied le matin, en fait, du camping jusqu'à la bassine. Donc on s'était séparés en trois cortèges différents. Donc on a marché 6 km à travers champs, ce qui n'est quand même pas rien. Et on était encore à bien entre 500 et 1 km de la bassine quand la Bravem est arrivée sur des quads. Donc à ce moment-là, on était juste un cortège qui marchait à travers champs. Et on s'est pris des lacrymos, ça a été de la première attaque.
Oui.
Voilà, à ce moment-là, on voyait la bassine encore au loin. Mais personne n'a riposté dans le groupe de manifestants, ou du moins très peu. Et ce qui fait que la Bravem est partie. Et après, on a pu continuer notre chemin pour arriver jusqu'à la bassine. Et là, le but était d'entourer la bassine, donc commencer à se déployer. Sauf qu'on n'était que notre cortège qui est arrivé pour le moment, donc on n'était pas beaucoup, pas nombreux. Et donc l'idée a plutôt été de se rassembler, de faire front devant, là où il y avait toutes les forces de police qui étaient maintenues. Et donc voilà, on s'est retrouvés directement plongés là-dedans. Donc par d'autres manifestations que j'avais déjà faites, je connaissais les lacrymos. Et je savais qu'on allait se recevoir des lacrymos. Et donc après, comme on était dans les champs, il suffisait juste de les recouvrir de terre et ça se faisait normalement plutôt bien. Sauf que celles-ci, elles étaient quand même particulièrement résistantes. Et c'est surtout qu'il y avait aussi des bruits vraiment assourdissants que j'avais jamais entendus auparavant. Et j'ai pas compris tout de suite ce que c'était. Et après, au bout d'un moment, on commençait à me dire « Ah ben c'est les grenades, c'est dangereux. » Et effectivement, à un mètre de nous, il y a un jeune homme qui s'est pris une grenade sur lui. Son visage a vraiment explosé, il y avait du sang partout, il était à terre. Il ne pouvait plus bouger. Et là, on s'est dit, mais en fait, on n'est pas venu là pour risquer notre vie. Enfin, on n'a pas envie de mourir pour cette cause. Nous, on est juste là pour défendre des valeurs. Et en fait, notre vie, elle est en danger. C'est vraiment dangereux ce qui se passe. Et toute la violence qui est face à nous, en fait, on peut y risquer notre vie.
Quel est votre sentiment ?
Je pense qu'il faut essayer de s'imaginer la scène qu'on était en train de vivre. On était juste un groupe de filles à encore quelques centaines de mètres de la bassine. Et en fait, autour de nous, il pleuvait des grenades, il y avait des blessés. En fait. Enfin, moi, c'était des scènes auxquelles je n'étais pas du tout prête. Et je pense que personne n'est vraiment prêt à vivre cette scène. On était au sein d'une guerre. Il y a la personne qui s'est pris une grenade vraiment à côté de nous. Et en fait, ça aurait pu être nous. Ça aurait pu être n'importe qui d'autre. Et autour de nous, il y avait ça criait médic. Dans tous les sens. Donc médic, c'est pour quand il y a un blessé grave, donc pour appeler les médecins. Et on voyait des personnes ensanglantées passer ou bandées, tenues par les pieds, par les mains. Enfin, en fait, c'était une scène de guerre et nous, on était juste pas prêtes psychologiquement et physiquement à affronter cette scène-là.
Et alors, je suppose que le choc a été, c'est ce que vous venez de dire, très, très important pour vous. Ça perdure encore ?
Le retour à la réalité a été très dur. Après avoir vécu ça, se retrouver dans son quotidien, dans sa routine, ça nous a tous fait un choc. On a eu besoin de se retrouver entre personnes qui avaient vécu la même chose. On a fait des débriefs psy pour retracer tout ce qu'on avait vécu à Sainte-Soline. Mais au-delà du choc en fait, en tant que tel, de la sidération vécue à ce moment-là, c'est... Ça reste encore maintenant aujourd'hui, c'est l'incompréhension en fait face à cette réponse de l'État à juste nos revendications. Et ce qui fait mal en fait, c'est de se rendre compte que nous on y est pour manifester, pour défendre des idéaux, une manière de vivre, une manière de s'organiser, une manière de s'adapter au réchauffement climatique et qu'en face, la réponse c'est juste de la violence pure et simple. De la violence de l'État qui est prêt à tuer ses citoyens pour défendre ses idéaux. Et en fait, ça fait mal de se rendre compte qu'on a beau manifester et essayer d'exprimer une autre manière de voir, et bien en fait, en face, il y a une violence qui est considérée comme légitime, qui est prête à nous tuer, pour nous faire taire.
Si je comprends bien, vous vous sentiez porteuse de futur ?
On est porteuse de futur, oui. Je pense que les modèles qu'on défend sont peut-être pas les seuls, mais sont des voies d'adaptation possibles pour le futur et permettre à chacun, chacune et aux êtres vivants de continuer à vivre. Et je pense que c'est pas parce qu'on est porteur de futur qu'on s'est fait attaquer, mais c'est parce qu'on critique le système agro-industriel, capitaliste, patriarcal qui est en place.
Et donc, il vous a semblé que c'était difficile de rester dans la légalité pour porter vos valeurs ?
Tout a été fait en fait pour qu'on ne puisse pas être dans la légalité à partir du moment où on mettait un pied sur le terrain. Sachant que cette manifestation était interdite et il y avait tout un périmètre qui était interdit, l'État ne voulait même pas nous laisser exprimer notre voix. Il faut savoir que même auparavant, les associations qui sont contre les méga-bassines veulent juste avoir leur voix entendue, être à la table des négociations et que ça leur a toujours été refusé. Donc en fait, l'État nous force à être dans l'illégalité juste pour... dire, enfin, juste pour qu'on puisse s'exprimer, en fait.
Alors, cette expérience est une expérience très dure, qui vous a montré des réalités très dures. Est-ce que ça vous a renforcé, d'une certaine façon, paradoxalement ?
De ce choc qu'on a eu au retour, c'est sûr qu'est devenu, on a eu une énorme force, en fait, de se dire, on va pas s'arrêter là, Et au contraire, on a encore plus envie maintenant de se battre pour pouvoir faire respecter nos convictions, nos engagements pour un monde meilleur, même si c'est un peu bizarre de le dire comme ça. Mais vraiment, on a vraiment des convictions et on veut les faire entendre. Et ça nous a donné vraiment l'envie de se battre encore plus et de faire encore plus de manifestations pour pouvoir nous faire entendre.
Vous étiez 8 personnes ensemble qui vous connaissiez bien. Est-ce que vous connaissiez mieux maintenant ?
Oui, on peut dire que ça nous a renforcés parce que c'est une expérience qui est quand même traumatisante. Et on y a survécu parce qu'on a été ensemble et qu'on s'est tenu les coudes et qu'on s'est serré les coudes, pardon. Et ça nous a vraiment renforcé les liens qu'on a entre nous. Et c'est une expérience fondatrice, en fait, d'un groupe aussi.
Merci Sarah, merci Maëva pour vos témoignages, pour vos convictions concernant cet événement marquant. Quant à moi, auditeur, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle chronique.